Vous écoutez France Culture.
Grain à moudre jusqu'à 19h. Vous pouvez dès maintenant nous laisser vos commentaires à la page de l'émission. C'est bien sûr sur franceculture.fr. Bonsoir à tous. De retour ce soir dans les studios de France Culture, après une halte hier par Bruxelles où le remaniement français occupait une large place dans les conversations de salon du Parlement. Des eurodéputés très attentifs et des commissaires européens encore plus à la nomination des deux nouveaux locataires de Bercy et à travers eux au redressement des comptes publics. La France ayant été placée sous surveillance de Bruxelles, c'était début mars, avant même d'apprendre cette semaine un nouveau dérapage du déficit à hauteur de 4,3%, la Commission européenne demande des comptes. Les Français aussi, après l'avoir clairement manifesté lors du scrutin municipal, marqué par la défaite historique des socialistes, ils attendent de leur côté une amélioration de leur niveau de vie et surtout, comme promis, le retour sur le chemin de l'emploi. Selon un sondage Tilder Opinionway du 27 mars dernier, 87% des personnes interrogées souhaitent un changement de politique économique. En janvier dernier, François Hollande a fixé un cap, celui du pacte de responsabilité, celui d'une politique de l'offre et du donnant-donnant avec les entreprises qui devrait être discuté, ce pacte, ce mois-ci à l'Assemblée. Confirmant par là même le cap de l'austérité, 50 milliards d'économies d'ici la fin de son quinquennat à réaliser, c'est en effet la prouesse que l'exécutif va devoir s'appliquer à tenir pour compenser les abaissements, notamment de charges consenties aux entreprises. Le soir du second tour, le débat sur la nécessité d'un changement de cap a pourtant été relancé. Des voix à gauche se sont élevées pour demander à enterrer le pacte de responsabilité. D'autres, au contraire, ont incanté le président à garder son cap. Alors, quelle marge de manœuvre a le chef de l'État ? Peut-il revenir en arrière ? Ou comment aller de l'avant pour son nouveau gouvernement ? François Hollande doit-il et peut-il encore changer de ligne économique ? Le débat est ouvert jusqu'à 19h sur France Culture et sur franceculture.fr. Et nos invités ce soir pour en débattre, du grain à moudre, en partenariat avec le mensuel Alternative Économique, Guillaume Duval, bonsoir.
Bonsoir.
Vous en êtes le rédacteur en chef. En une, ce mois-ci, cette France qui gagne, vous avez choisi de vous tourner vers ces industries qui se portent bien et casser un peu ce discours aussi pessimiste de cette France industrielle qui se porte mal, qui périclite.
Enfin, il faut relativiser les choses. C'est vrai que beaucoup d'entreprises industrielles se portent mal, mais il y a aussi des possibilités.
De relève,
oui,
ou de relance.
De relève.
Vous précisez quand même dans vos pages que le redressement sera long.
Mm-hmm.
La route, en tout cas, sera longue.
Hein. On souhaite bonne chance à Arnaud Montebourg.
C'est gentil, il sera sûrement heureux de vous entendre. À vos côtés, Marie Dancer, bonsoir.
Bonsoir.
Journaliste économique à La Croix. Et également Valérie Segond, que les auditeurs de France Culture connaissent bien, puisque vous êtes chroniqueuse chez nous, ancienne journaliste à La Tribune.
Bonsoir.
À suivre également le contrepoint de Sarah Petitbon qui a interrogé Jean-François Roubaud, président de la CGPME, les petites et moyennes entreprises. Alors, passation de pouvoir aujourd'hui à Bercy avec Pierre Moscovici, une équipe remaniée, un gouvernement de combat où les choisis, les élus sont Arnaud Montebourg, nouveau ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique. Et puis Michel Sapin qui chapeautera, lui, les finances et les comptes publics.
Chacun s'interroge pour savoir comment Bercy peut avoir deux têtes. Eh bien, je vous assure, je vous en fais la promesse, on ne nous posera plus cette question à nous dans quelques semaines, parce que vous aurez vu que c'est aussi ça, la manière moderne de faire en sorte qu'un pays comme le nôtre fonctionne.
À lui, les finances et les comptes publics, à nous, l'économie, le redressement productif dans un même élan pour organiser la sortie de crise.
Un même élan pour organiser la sortie de crise. Mais quel élan, Guillaume Duval ?
Donc l'élan, on l'attend, on l'espère, mais c'est vrai que dans l'immédiat, quand il s'agit d'organiser avant tout l'austérité renforcée avec 50 milliards d'euros de baisse des dépenses publiques, ça risque d'être un élan un peu poussif en termes de relance de l'activité économique. Alors il y a parallèlement les 30 milliards d'euros de baisse du coût du travail pour les entreprises qui sont censées relancer l'investissement et l'emploi. On verra, mais dans la mesure où cette baisse est accompagnée de cette baisse des dépenses publiques très importante qui risque d'avoir un effet récessif marqué sur la demande intérieure en France, je ne suis pas sûr que les effets attendus sur l'emploi et sur l'investissement soient réellement au rendez-vous. On n'avait peut-être pas le choix dans la mesure où, les autres avaient déjà, les autres Européens s'étaient déjà engagés dans cette course vers le moins 10 ans social qui plombe l'Europe déjà depuis 4 ou 5 ans maintenant. On n'avait peut-être pas le choix, pas d'autre choix que de les suivre, mais le fait que ça puisse se traduire par un redressement productif et par de l'emploi supplémentaire en France, j'attends de voir l'épreuve.
Le moins disant social, le plus d'austérité, Marie Dancer, c'est également ce que vous entendez, vous, dans ce même élan?
Alors, moi, je pense que d'abord, le résultat des municipales est probablement assez compliqué à décrypter parce qu'il y a forcément une addition de mécontentement. Donc, on a le ras-le-bol fiscal, le ras-le-bol des couacs, les pro-rigueurs, les anti-rigueurs. On aura probablement ce type de problématique aussi dans la campagne électorale des européennes. Ceci étant dit, moi, je vois mal François Hollande revenir sur le pacte de responsabilité. C'est quand même lui qui l'a annoncé très solennellement en conférence de presse à la mi-janvier. Et un visiteur du soir de Matignon, alors du précédent Premier ministre, m'a expliqué que finalement, si François Hollande renie le pacte de responsabilité, ça revient à se renier lui-même.
Il n'avait pas le choix, en somme. Il fallait garder le cap qu'il s'est fixé.
Le signal là qu'il envoie en nommant Manuel Valls et en lui confiant très clairement, en guise de feuille de route, la mise en œuvre du pacte de responsabilité ne laisse pas de doute, je pense.
Valérie Segond, François Hollande avait le choix déjà? Est-ce qu'il pouvait changer de cap si on donne la parole à Thierry Lepan de la CGT qui s'est exprimé aujourd'hui? Lui ne voit pour l'instant aucun signe de renouveau, plutôt une accélération, je le cite, dans les politiques d'austérité et une soumission au diktat de la Commission européenne. Selon lui, le président avait le choix, celui de s'engager dans une politique de relance et il ne l'a pas choisi.
Écoutez, moi je partage assez l'avis de Marie Dancer. À savoir, je ne suis pas sûre qu'il faille lire le résultat des municipales comme une demande adressée à François Hollande de changer de cap. Je pense qu'effectivement, il y a une sanction, ça c'est sûr. Une sanction avant tout de l'absence de discours en vérité. N'oublions pas qu'il a été quand même élu sur le fait que la crise, que son prédécesseur était responsable de la crise et que tout irait mieux lorsqu'il arriverait à l'Élysée. Puis il a fini par changer de cap en lançant une politique de l'offre sans que ça porte ses fruits. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Les Français se sont retrouvés à payer beaucoup plus d'impôts sans voir aucune réforme sérieuse sur les dépenses publiques, avec un chômage qui continue à progresser. Moi, je crois que je ne suis pas sûre que le discours de la CGT représente absolument ce que pensent les Français. N'oublions pas que les Français ont voté à droite dans ces élections. Je crois que les Français sont beaucoup plus lucides aujourd'hui sur la France que ce qu'ils étaient en 1995. Ils savent que la France ne peut pas continuer à vivre indéfiniment au-dessus de ses moyens. Je crois que les Français sont inquiets. Ils veulent être pris pour des adultes. Ils sont inquiets pour eux-mêmes. Ils sont également inquiets pour leurs enfants, parce que n'oublions pas qu'on voit de plus en plus de diplômés chercher à partir à l'étranger. Donc je pense que la demande des Français, elle est effectivement difficile à décrypter, je suis d'accord avec Marie Dancer, mais est-ce que c'est on veut un État protecteur ou est-ce que c'est pas plutôt on veut que le gouvernement clarifie sa position, s'engage dans une véritable politique de réforme structurelle et prenne à bras le corps les problèmes de la France sans attendre que la reprise résolve tout.
Est-ce que c'est pas simplement une demande de résultat finalement, peut-être, peu importe Guillaume Duval la méthode ou le cap fixé?
Oui, je crois qu'il y a une demande de résultat, en particulier sur un sujet qui est central pour les Français. Il y a aujourd'hui 640 000 inscrits à Pôle emploi de plus qu'en mai 2012. Il y a en particulier un sujet sur lequel le gouvernement ne s'est pas beaucoup exprimé jusque-là, plus qu'un doublement des chômeurs âgés de plus de 50 ans par rapport à l'avant-crise. C'est vrai que dans ce contexte-là, quand François Hollande a donné la priorité et là-dessus, il n'a jamais changé de cap jusqu'ici. C'est, je crois, pour cela aussi qu'il a perdu. A donné la priorité, les priorités au rétablissement des comptes publics, puisque vous vous souvenez qu'il avait été élu sur la promesse de ramener les déficits publics à 3% dès 2013, et que c'est pour cela qu'il avait lancé un très gros effort de restriction budgétaire pour l'année 2013. Le problème, c'est que les Français constatent à juste titre que cette stratégie d'austérité très poussée a complètement échoué. C'est-à-dire qu'elle a cassé l'activité et fait avec, on a juste 0,3% de hausse de l'activité en 2013. Elle a de ce fait augmenté le chômage, empêché de réduire le chômage. Et au bout du compte, ce qu'il constate aussi, c'est qu'elle a aussi échoué sur le plan de la réduction des déficits, puisque quand il n'y a pas d'activité, il n'y a pas de rentrée fiscale. Et donc les déficits se sont à peine réduits entre 2012 et 2013. Ils sont passés de 4,8% du PIB à 4,3% du PIB au lieu des 3% annoncés et visés. Donc les Français ont constaté cet échec massif de la politique qui était suivie jusque-là. Est-ce que du coup ils attendaient qu'elle soit prolongée, amplifiée aujourd'hui à travers le pacte de responsabilité, en particulier les baisses de dépenses publiques qui sont annoncées aujourd'hui?
Ce qui illustrerait la vague bleue sur la Valérie Segond.
C'est un peu osé. Comme lecture des élections municipales. Après, se pose une question très sérieuse et sur laquelle je ne suis pas sûr du tout d'avoir la réponse, c'est de savoir si, après une claque de cette ampleur, François Hollande pouvait effectivement en tenir compte et changer réellement de politique. Donc il y a des questions derrière de timing. C'est vrai que les échéances qu'il s'était fixées pour le pacte de responsabilité et que Bruxelles lui avait fixées pour communiquer les éléments sur sa politique à moyen terme de baisse des déficits, c'était juste après ces élections. Donc c'était pas forcément évident de se retourner immédiatement pour faire une autre politique.
Et le pacte de responsabilité n'est pas encore appliqué. Donc ce serait peut-être absurde aujourd'hui de changer de cap sans connaître encore savoir si les résultats escomptés sont atteints. Mais selon vous...
Malheureusement, les résultats escomptés sont assez connus.
Vous êtes assez pessimiste.
Non, mais enfin, je pense que l'impact récessif d'un pacte de ce type est malheureusement assez clair. La question qui se pose, c'est au-delà de cette question de timing, qui était de toute façon très serrée, est-ce qu'il existe une possibilité en Europe aujourd'hui de faire changer les politiques économiques stupides qui coulent l'activité en Europe depuis 4 ans maintenant. Donc en 2008, il y avait 3,7 millions d'emplois en plus dans la zone euro qu'aux États-Unis. Cette année, il va y en avoir 2,4 en moins qu'aux États-Unis. Donc c'est une crise américaine, mais c'est l'Europe qui s'en sort beaucoup plus mal que les États-Unis. Donc c'est une politique stupide qui a été menée jusque-là. Pour l'instant, le gouvernement français a l'air de considérer que parce que Mme Merkel est restée au pouvoir en Allemagne, ça veut dire qu'il n'y a pas moyen de faire changer les Allemands et le gouvernement allemand de politique. Je pense que c'est sous-estimer les marges de manœuvre qui existent. Les élections allemandes se sont quand même traduites par le fait que c'est la gauche allemande qui est majoritaire au Bundestag. C'est plus avec les libéraux qu'elle gouverne, c'est avec le SPD.
Guillaume Duval, vous abordez beaucoup de sujets en même temps. J'aimerais bien laisser aussi un peu la parole à vos consoeurs, qu'on puisse effectivement décliner un peu ces gros dossiers qui attendent aussi les deux nouveaux locataires de Bercy. Juste une petite question encore avec vous, Marie Dansert, sur la forme, un peu de sémiologie avant d'entrer dans le fond de ces dossiers. Quel signal François Hollande, selon vous, et son nouveau Premier ministre ont-ils envoyé avec cette double nomination? Cette nomination Montebourg-Sapin.
Alors, les esprits chagrins regretteront qu'on ait adopté un modèle allemand, disons, en séparant le ministère de l'économie des finances. Monsieur Montebourg, lui, se satisfait d'avoir été nommé au ministère qu'il appelle de l'économie réelle. Et en voyant Monsieur Sapin négocier à Bruxelles, on peut y voir aussi un signal adressé à la gauche, disons, du PS en la personne de M. Montebourg.
Mais est-ce que vous voyez dans ce changement, qu'est-ce que vous en attendez? Est-ce que vous voyez un changement de style? Ça, on est d'accord, avec un Arnaud Montebourg, ça change quand même considérablement d'un Pierre Moscovici. Mais est-ce que vous voyez aussi un changement de fond, un changement de cap? Est-ce qu'on en sait un peu plus finalement sur la feuille de route qu'ont reçue les deux ministres de Bercy?
Effectivement, il faudra quand même attendre leurs actes. Ceci étant dit, M. Montebourg, lui, s'est longtemps fait l'apôtre de la démondialisation. Il a un discours assez fort sur, contre l'euro fort, précisément. Et après avoir été assez en antithèse, en antinomie avec les chefs d'entreprise, il s'est rallié pas mal d'entre eux qui sont assez contents de son discours, et notamment en matière d'euro fort.
Et pour vous, Valérie Segond, pas de contradiction dans le choix d'Arnaud Montebourg, qui s'inscrit plutôt jusqu'ici sur l'aile gauche du Parti Socialiste, porte-drapeau du Made in France, chantre, comme vous nous le rappeliez à l'instant, Marie Dancer, de la démondialisation, pour porter ce futur pacte de responsabilité et incarner le tournant social-libéral voulu par le chef de l'État?
Moi, je pense que cette double politique, cette double tête à la tête de Bercy, indique bien qu'il y a quand même maintenant deux axes. Il y a d'un côté les comptes publics, je fais une périphrase, et de l'autre côté la croissance. Et je pense qu'on va essayer de mener les deux en parallèle. Je voudrais revenir sur une des choses qu'a effleuré Guillaume Duval, c'est que s'il y a une feuille de route que l'on voit apparaître depuis trois jours, c'est que François Hollande et Michel Sapin l'a confirmé ce matin, ils espèrent pouvoir reporter la baisse du déficit public et l'engagement que l'on avait donné il y a un an. Il y a un an, je vous le rappelle, on s'était engagé à ramener le déficit à 3% en 2015 et 1,2% en 2017. Et la question, c'est est-ce qu'on va pouvoir ralentir le rythme de réduction du déficit public pour ne pas étouffer la croissance, comme vient de l'expliquer Guillaume Duval.
Sachant que dans cet exécutif bicéphale à Bercy, comme vous venez de l'évoquer, ce serait donc M. Sapin qui serait en charge de jouer les négociateurs auprès de la Commission européenne, voilà, dans la répartition des rôles.
Alors la question, c'est est-ce que c'est envisageable qu'il obtienne ça auprès des Allemands, sachant que l'année dernière, en 2013, lorsque le gouvernement avait obtenu un report de la réduction des déficits, le contexte était extrêmement différent. À l'époque, il faut se souvenir que la Commission de Bruxelles avait révisé ses prévisions de récession sur la zone euro à la baisse. Enfin, en tout cas, la récession était plus grave que prévu, et il y avait des craintes de déflation sur la zone euro, au point que la BCE avait réduit ses taux directeurs. Donc, il y avait il y a un an, il y avait une prise de conscience collective que l'austérité étouffe la croissance. Et la France s'était finalement glissée dans cette prise de conscience et avait obtenu, de même que l'Espagne, le Portugal, la Grèce, l'Irlande et les Pays-Bas avaient obtenu un report de la baisse de ses déficits publics. Bon. Alors la question, c'est que le fait est que en 2014, le contexte est radicalement différent. L'activité est repartie dans toute la zone euro. Et la France est un des seuls pays, aujourd'hui, à demander ce report des déficits. Alors même qu'elle n'a pas fait les réformes structurelles qu'elle s'était engagée à faire il y a un an. Donc, est-ce que c'est envisageable d'obtenir ce report des déficits publics? C'est pas évident. Bon, il y a cela dit des arguments qui plaident en faveur d'une certaine clémence de l'Allemagne. D'abord, est-ce qu'on sera... L'Allemagne pourrait être clémente si on est capable de démontrer d'entamer de véritables réformes structurelles et de réduire les dépenses structurelles. Bon, en disant finalement, c'est une politique qui est longue à produire ses effets, donc laissez-nous un peu de temps et à ce moment-là, les réformes structurelles donneront leurs effets. Et ça permet de changer le discours. Et la deuxième chose qui me paraît très importante pour laquelle la France, si vous voyez les nouvelles feuilles de route, peut-être espérer d'obtenir ce report, c'est les élections européennes le 25 mai. Et si on voit venir une poussée des partis populistes dans les grands pays cœur de l'Union européenne, la France pourra tenir le discours à l'égard de la nouvelle majorité qui va et la nouvelle Commission européenne que finalement cette austérité est contraire à l'Europe, et puisque ces partis populistes sont tous des anti-européens.
Et là, c'est une course contre la montre, parce que le le prochain grand rendez-vous, ce sera le 15 avril, autour de la mi-avril et les élections donc un mois après. Il faut effectivement peut-être donner des gages avant ces élections, de ne pas se laisser, comme on citait tout à l'heure Thierry Le Pen, imposer ses dictats de Bruxelles, mais montrer que la France peut aujourd'hui peser face à Bruxelles et à Berlin, comme vous l'évoquiez à l'instant. Je vous demandais comment le message de cette double nomination était perçu, d'après vous. Arnaud Montebourg, nouveau ministre de l'économie, une nomination que les patrons, en tout cas les capitaines d'industrie et les chefs des grandes entreprises, voient plutôt d'un bon œil. Et les petites et moyennes entreprises, Jean-François Roubaud, président de la CGPME, au micro de Sarah Petitbon réagit.
Je connais bien Arnaud Montebourg pour travailler avec lui maintenant depuis presque 2 ans. M. Montebourg est un homme d'énergie, il le prouve tous les jours, et je pense qu'on avancera bien avec lui. Moi, de mon côté, je pense que, et je suis certain maintenant, que le président de la République va continuer sur cette politique. Il n'y a pas de changement de politique économique. On continue la politique sur laquelle François Hollande s'est engagé. Ça veut dire que l'on va avoir le pacte de responsabilité qui sera annoncé, je l'espère, de manière précise, quelles vont être les baisses de charges, etc. Et puis, la conclusion des assises sur la fiscalité, qui devront être aussi amenées dans le même temps, auquel cas, nous sommes tout à fait dans la poursuite de nos objectifs et de l'aide que nous apporterons au gouvernement pour cette réussite, parce que nous pensons que c'est la seule réussite possible pour la France. Mais j'ai 2 problèmes très importants. C'est plutôt avec M. Rebsamen qui vient d'être nommé au travail, à l'emploi et au dialogue social, où là j'ai 2 chantiers urgents que je veux lui soumettre, et j'ai déjà fait demande de rendez-vous, sur le problème de la pénibilité pour nos TPE et PME et sur le temps partiel pour les mêmes entreprises. Notre souci sur la pénibilité, c'est qu'il y avait déjà des efforts de fait par les branches en prévoyance, etc., et qu'aujourd'hui les entreprises vont être obligées de noter tout ce qui est dans les 10 chapitres de pénibilité, tout ce qui est noté individuellement, journellement, est-ce qu'il y a un supplément de charge, etc. Ça veut dire que c'est totalement irréaliste. Il faut avoir dirigé une PME de 5 ou 10 personnes pour savoir que c'est pas réaliste. Alors je demanderai donc à M. Rebsamen de prendre ça en charge. Et sur le temps partiel, puisque maintenant au 1er juillet 2014, donc dans 3 mois, les nouveaux contrats à temps partiel qui sont passés ne pourront pas être inférieurs à 24 heures. Et à terme, au 1er juillet 2016, comme cette loi de 24 heures serait applicable à tous les contrats en cours, ça veut dire 2 millions de contrats à temps partiel, ça veut dire clairement qu'on risque entre 500 et 700 000 chômeurs en plus, si j'en crois mes chefs d'entreprise que j'ai interrogés.
Marie Danser, voilà 2 dossiers chauds, plus chauds, qui devraient arriver cette fois-ci sur le bureau de François Rebsamen, nouveau ministre du Travail, la durée minimale du temps partiel à 24 heures et le compte individuel de pénibilité sur ces dossiers aussi social qu'économique. Est-ce que François Rebsamen est l'homme de la situation d'après vous, Guillaume Duval, Marie Danser?
Oh, quand Valérie Seconde disait tout à l'heure qu'il n'y avait pas eu de réforme, il y a déjà eu des réformes très importantes, notamment du marché du travail, puisque c'est à cela que fait référence M. Roubaud pour le temps partiel, avec la transcription de l'accord national interprofessionnel de janvier 2013 l'an dernier. Il y a eu des réformes importantes sur les retraites. C'est vrai que quand on donne quelque chose aux patrons, ils en demandent toujours plus. Donc c'est ce qui est en train de se passer à travers les revendications de M. Roubaud, donc une des seules contreparties qui avait été un petit peu obtenue et pas encore réellement mise en œuvre à l'allongement de la durée de cotisation pour les retraites. Hein, donc on est à 62 ans au minimum et 67 ans pour de nombreux salariés. Donc une des seules contreparties qui avait été obtenue, c'était justement la mise en place de ces comptes de pénibilité et du fait qu'on allait faire les efforts qui sont promis depuis très longtemps et qui n'étaient pas faits jusque-là, pour faire partir plus tôt les gens qui avaient des métiers pénibles. Alors après, on peut s'asseoir dessus, comme le demande Monsieur Roubaud, mais ça va être compliqué d'expliquer ça aux salariés, en particulier dans le contexte où, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a beaucoup, beaucoup de salariés âgés qui se retrouvent au chômage aujourd'hui.
Marie Danser, pour financer le pacte de responsabilité, il n'y aura pas de hausse d'impôts, a d'ores et déjà précisé Michel Sapin. Il va falloir économiser, rogner sur d'autres postes importants comme l'éducation, la modernisation des infrastructures. Ça, ce sont des pistes évoquées par Alternative économique ce mois-ci. Pas sur la recherche, précise immédiatement le chef de l'État. C'était ce matin à la Sorbonne, à l'occasion des 50 ans de l'INSERM. Sans recherche forte, il n'y a pas d'économie forte. Alors on pourrait aussi dire sans éducation forte, il n'y a pas d'économie forte, sans structure. Infrastructure forte, il n'y a pas d'économie forte. Voilà, sur ce dossier-là, les derniers arbitrages sont en cours et le futur programme de stabilité devrait nous éclairer un peu plus précisément sur les postes où l'État entend faire des économies. On a beaucoup parlé des collectivités territoriales. Au final, est-ce que vous pensez que le rapport coût-bénéfice entre ce pacte de responsabilité et les effets qu'ils sont censés produire sera profitable au pays, Marie Dansert?
Alors d'abord, il faut préciser que ça s'inscrit dans une stratégie de François Hollande qui avait dit « je commencerai mon programme par des hausses de prélèvements obligatoires et ensuite je passerai à la baisse des dépenses publiques » parce que plusieurs études ont montré que en cas de rigueur, il vaut mieux faire d'abord des hausses de prélèvements obligatoires et ensuite une baisse de dépenses. Ça crée moins de récession. Un certain nombre d'études ont montré ça. Donc François Hollande s'est engagé dans cette voie. Nous arrivons donc maintenant à la nécessité mise en avant par François Hollande de baisser les dépenses. Ce qui est compliqué dans son message, c'est qu'à la mi-janvier, il nous a expliqué que c'était finalement un pourcentage assez minime, 50%, 50 milliards. C'est un pourcentage assez minime du total des dépenses publiques. Quand on doit passer à l'action, ça reste très compliqué. Et depuis le mois de janvier, on n'a pas eu beaucoup d'indications, en l'occurrence, de la manière dont ça allait se faire. Et à mon avis, le problème se situe à ce niveau-là, c'est-à-dire une annonce est faite qui est suivie par des semaines et des mois d'atermoiement qui ne donnent aucune visibilité, aucune lisibilité finalement et entretiennent un flou alors que, comme le disait Valérie Segond, les chefs d'entreprise mais aussi les citoyens sont en demande d'un discours de transparence et de vérité.
Valérie Segond, par quoi va passer le pacte de responsabilité, baisse des charges, extension du crédit d'impôt, compétitivité, emploi? Pour l'économiste Thomas Piketty, ce serait une catastrophe. Il faut, pour lui, sortir de ce crédit d'impôt. Le gouvernement, écrit-il, jette de l'argent public par les fenêtres au moment où il n'en a pas. C'était dans Libération le mois dernier. Une usine à gaz à supprimer, absolument, pour vous aussi?
Non, moi je pense que le principe de baisser le coût, le coût du travail des entreprises pour qu'elles créent des emplois est un bon principe. Alors, il faut bien distinguer le pacte de responsabilité d'un côté et les 50 milliards de dépenses publiques de l'autre. Ce sont deux choses différentes. Pour la baisse des coûts, la question, c'est sous quelle forme ça va être fait. Si on baisse les cotisations, c'est immédiatement favorable pour les entreprises. Si c'est un crédit d'impôt, on rentre encore là, effectivement, dans une nouvelle usine à gaz. Donc, l'effet de la baisse de cotisations est beaucoup plus immédiat et sans doute plus rapide. Enfin bon, ça c'est bon, voilà. Mais ce qu'il faut dire, juste une chose, c'est que disait tout à l'heure Guillaume Duval, à savoir que c'était récessif le pacte de responsabilité, ça dépend beaucoup de la manière dont c'est financé. Et c'est pour ça que lorsque tout à l'heure Michel Sapin, je crois, a dit que ça ne serait pas financé par une hausse d'impôts, je pense que c'est important.
C'était Michel Sapin,
hein,
ce matin.
Parce que effectivement, si on le finance par une baisse d'impôts, ça équivaut. Le risque, c'est de rentrer dans une stagnation longue. Donc bon, enfin cela dit, ça c'est le pacte de responsabilité, c'est une chose, mais c'est 10 milliards. Le vrai sujet, c'est les 50 milliards. Hein. Bon, on sait que le gouvernement a fait un conseil stratégique de la dépense publique pour trouver 50 milliards de réduction de dépenses publiques. La vraie question, c'est est-ce qu'on va faire de véritables réductions de dépenses structurelles, c'est-à-dire qu'une fois qu'on y touche, ça se reconduit d'année après année, ou est-ce qu'on va faire des à-coups opportunistes du type gel du point d'indice qu'on fait depuis 2010, désindexation des salaires ou blocage des promotions et avancements. Donc, cette question de qu'est-ce qu'il y a dans ce paquet de réduction des dépenses publiques de 50 milliards que l'on s'est engagé de faire vis-à-vis de Bruxelles, c'est qu'est-ce qu'il y a dedans? Je pense que c'est majeur. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, personne ne sait ce qu'il y a dans ces 50 milliards. Je suis moi-même un peu inquiète que le ministre qui est en charge de cette réduction, qui travaille dessus depuis 6 mois, soit déplacé au ministère de l'Intérieur 15 jours avant la sortie, la publication de ce programme. Donc la vraie question, c'est qu'est-ce qu'il y a dans ces 50 milliards? Est-ce qu'on va véritablement toucher aux effectifs, à la structure de l'État, redessiner les circonscriptions administratives, redéfinir peut-être l'État protecteur? Donc ce que je pense, c'est cette question des 50 milliards est absolument décisive pour la politique économique. Et la question, c'est est-ce qu'on va arriver à faire quelque chose qui va convaincre à la fois Bruxelles et les Français que l'on s'attaque aux problèmes de fond.
Bernard Cazeneuve aura sûrement laissé quelques notes quand même à ses successeurs, hein, puisqu'il y travaille depuis un moment et qu'effectivement, des arbitrages ont déjà été décidé, chaque ministre a été entendu pour voir où le gouvernement pouvait imaginer faire quelques économies en taillant dans la dépense publique. Vous, Guillaume Duval, qu'est-ce que vous dites ? Vous dites il est encore temps pour changer de cap et dépenser plus, qu'il faut arrêter, qu'on peut peut-être sortir de cette obsession du dépenser moins. Beaucoup d'économistes appellent notamment à cela, à arrêter de penser, d'être obsédé par la réduction de la dépense publique. Ou, au contraire, vous êtes d'accord avec l'idée qu'il va peut-être falloir réduire cette dépense publique, mais dans ce cas, comment y parvenir ? 50 milliards d'économies entre 2015 et 2017, ça serait un effort sans précédent.
Ce que je crois, c'est qu'il y a un réel problème d'efficacité de l'action publique en France qui est massif. On dépense beaucoup d'argent pour la politique du logement et ça donne rien. On a une crise immobilière importante, on a une crise du logement importante. On dépense beaucoup pour l'éducation et on a un système éducatif qui est un de ceux qui reproduit le plus les inégalités sociales parmi les pays riches. On a tout ce qu'on connaît sur le millefeuille territorial, etc. Il faut réformer en profondeur l'action publique, l'organisation de l'État, les politiques publiques. Le problème, c'est qu'à mon avis, c'est parfaitement contradictoire de vouloir réformer en profondeur et améliorer l'efficacité de l'action publique. C'est parfaitement contradictoire avec le fait de vouloir dégager des économies importantes à très court terme. Les restructurations, y compris dans les entreprises privées, ça coûte toujours très cher dans l'immédiat. Il faut former des gens, indemniser ceux auxquels on fait perdre leur emploi, etc., etc. Réouvrir des nouvelles structures qui ne sont pas tout de suite efficaces, etc., etc. Donc, c'est forcément des politiques coûteuses dans l'immédiat et les économies ne sont qu'à terme. L'idée qu'en faisant des économies très importantes, on va pouvoir faire ces réformes et rendre l'État plus efficace, je n'y crois pas un instant. On le voit bien déjà à travers la manière dont on maltraite aujourd'hui et depuis déjà quelques années les salariés de la fonction publique. Ils ont perdu du pouvoir d'achat net. L'an dernier, l'INSEE vient de l'établir. C'est pas comme ça qu'on va les mobiliser pour rendre l'État plus efficace et pour réformer l'État. On est simplement en train de les crisper, de préparer à ce qu'ils rentrent tous dans leurs tranchées pour défendre le statu quo. C'est tout ce qu'on fait avec le type de choses qu'on prépare aujourd'hui. Donc là, je suis très sceptique sur la capacité du gouvernement à faire ça. Et s'il touche à la protection sociale, donc là, pas simplement aux dépenses de l'État et du fonctionnement de l'État, mais à la protection sociale. Alors là, je lui souhaite bonne chance. C'est vrai qu'on dépense beaucoup pour les retraites plus que d'autres, mais avec les réformes qui sont déjà lancées, on sera un de ceux qui dépenseront le moins en plus dans le futur. Et s'il veut toucher aux retraites des gens qui sont à la retraite, je ne suis pas sûr que ça marche très bien. Du côté de l'assurance maladie, il y aurait des choses à faire, mais ça consiste essentiellement à s'attaquer aux revenus des médecins. Je ne sais pas si le gouvernement va s'y engager. En tout cas, Marisol Touraine ne l'a pas fait jusqu'ici.
François Hollande doit-il et peut-il encore changer de ligne économique ? C'est notre débat jusqu'à 19h avec vous, Guillaume Duval d'Alternative Économique, rédacteur en chef, avec Marie Danser, journaliste économique à La Croix, et avec Valérie Segond, journaliste ex-éditorialiste à La Tribune et aujourd'hui chroniqueuse sur France Culture. Qu'est-ce que vous diriez à l'oreille de Manuel Valls ou de Arnaud Montebourg ou de Michel Sapin si vous étiez consulté, s'il vous demandait quoi faire? Quels infléchissements? Quelles réponses donner aujourd'hui aux Français en termes de politique économique? C'est le cas notamment de Mathieu Pigasse, le banquier qui a été consulté en début d'après-midi, auteur d'un éloge de la normalité. Vous, Guillaume Duval, qu'est-ce que vous lui diriez? Parce que là, vous venez nous dire tout ce qu'il ne fallait pas qu'il fasse, mais que devrait-il faire?
Je pense qu'un des enjeux centraux, c'est effectivement de savoir qu'est-ce qu'on peut faire au niveau européen. Et je pense que là, il faut relancer, après la crise ukrainienne en particulier, il faut relancer l'idée qui devrait être acceptable pour les Allemands dans le contexte actuel d'un grand plan européen financé par un endettement européen pour la transition énergétique et la conversion écologique de nos économies, l'accélérer pour réduire la dépendance à la fois de la France et de l'Europe sur ces terrains-là. Je pense que dans la situation française, il faut reprendre le dossier de la réduction du temps de travail. Je sais que ça peut paraître difficile compte tenu du passif, surtout sur le plan politique, hein, pas tellement sur le plan de la réalité économique, du passif des 35 heures, mais je pense qu'on n'en sortira pas du chômage de masse, en tout cas suffisamment vite pour éviter que ça pète sur le plan social et politique, si on ne reprend pas ce dossier. Ça n'a pas besoin de prendre la forme d'une nouvelle réduction du temps de travail hebdomadaire. Hein, si on dit 6 mois sabbatique rémunéré tous les 5 ans ou 1 an sabbatique rémunéré tous les 10 ans, ça fait aussi, disons, 10% de travail en moins. Donc je pense qu'il y a des choses à faire, mais ça implique effectivement de sortir des tranchées pour chercher à infléchir les politiques européennes. Ça implique effectivement d'avoir recours à des choses qui ne sont pas dans la doxa libérale habituelle, à la fois de la Commission, mais aussi du gouvernement français de Bercy.
Marie Dancer.
Oui, moi je pense qu'il est, très important de redonner du sens aux réformes, de dire aux Français qu'il y a des efforts à faire probablement. Nous sommes quand même en train de fonctionner sur un modèle social qui date de l'après-guerre, donc qui a besoin objectivement d'évolution. Donnons-nous les moyens de choisir les dépenses que l'on conserve, les dépenses que l'on réoriente éventuellement, mais surtout dire aux Français où est-ce qu'on va, le faire dans un esprit de justice, et ça passe à mon avis par une réforme de la fiscalité, une fiscalité qui soit plus progressive, plus juste. On peut aussi agir sur les recettes en luttant contre la fraude fiscale. Alors ça, c'est un chantier qui est mené et de manière de plus en plus forte. Et c'est un signal extrêmement positif, je pense, envoyé aux contribuables et aux citoyens français. Voilà. Et redonner du souffle au projet européen. Je pense qu'effectivement, la transition énergétique, l'orientation vers une économie verte avec des financements européens, c'est aussi une manière de redorer le blason européen, de redonner un élan à l'Europe, parce qu'effectivement, beaucoup de choses vont se jouer à Bruxelles aussi.
L'énergie verte qui avait une grande place, notamment dans la trentaine de plans présentés par Arnaud Montebourg pour l'industrie française et pour l'avenir de cette industrie. Pratiquement, on ne sait pas encore ce que ça a donné, mais elle était placée au cœur de cette action-là. Valérie Segond, vous ne faites pas non plus l'éloge, j'imagine, de la normalité cette fois. Vous appelez le gouvernement...
Non, mais moi, je pense que, justement, s'attaquer véritablement au problème de la France... C'est pas de faire de la normalité, c'est au contraire avoir énormément de courage. Je pense que lorsque Manuel Valls s'attaquera au problème, enfin à tout ce qui ne fonctionne pas, donc Guillaume Duval a très bien décrit ce qui ne fonctionnait pas et ce qui pouvait être mis à plat, je pense que ça va être très compliqué parce qu'il a une petite majorité. Donc la question c'est comment est-ce qu'il va faire ? Est-ce qu'à chaque fois qu'il va aborder un problème, on va avoir des milliers de Français dans la rue ? C'est une vraie question. Mais je pense que même si remettre à plat les dépenses publiques n'a pas d'effet à court terme, je pense que c'est pas une raison pour laquelle il ne faut pas le faire. Parce que je pense que les Français ont besoin d'un signe de confiance. Enfin, je pense que pour reprendre confiance en l'avenir, pour être prêts à faire des efforts encore s'il le faut, à repenser leur manière de travailler, et je pense qu'ils doivent avoir un cap clair. Et c'est pour ça que je pense qu'on ne peut pas faire comme si le fait de lancer des réformes structurelles était seulement déflationniste et n'avait pas d'effet à long terme. Je pense qu'il faut qu'on travaille à long terme et qu'on arrête de travailler avec des échéances très courtes.
Quand on est au pouvoir, ce n'est pas pour changer de direction continuellement, même après une élection locale. Donc il faut maintenir cette direction et ensuite il faut infléchir. Voilà, ça c'était Michel Sapin il y a peu dans la Dépêche. Le message sera-t-il reçu et à quoi ressemblera cette inflexion entre austérité et croissance désirée, baisse de fiscalité, augmentation du SMIC, peut-être un geste. Une grande partie de la gauche aujourd'hui, l'aile gauche de la gauche et notamment le Parti communiste appelle d'urgence des mesures de justice sociale. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus passer cette petite heure avec nous. Je vous rappelle qu'Alternative économique, notre partenaire sur cette émission, est actuellement en kiosque à la une de ce numéro d'avril. Industrie, cette France qui gagne. Merci à vous, Guillaume Duval. Du grain à moudre, une émission préparée par Céline Leclerc, par Fanny Richet, par Sarah Petitbon et par Mina Afezi.